Bien, nous allons commencer. Lors de la dernière séance du séminaire, j'avais fait part d'une des raisons pour lesquelles je m'étais intéressé à cette question de l'individualisme qui est au cœur du séminaire de cette année. J'avais expliqué que, après avoir lu comme étudiant les travaux de Louis Dumont et l'opposition qu'il fait entre les sociétés individualistes et les sociétés holistes, j'avais eu le sentiment qu'en partant en Amazonie, je rencontrerais plutôt une société holiste qu'une société individualiste. J'ai dû déchanter, peut-être un terme un peu excessif, en tout cas je me suis rendu compte que ce n'était pas une société holiste au sens classique et qu'on y rencontrait des individualités qui étaient en compétition les unes avec les autres pour atteindre, au fond, un état moyen qui était une position de prestige reconnue par tous. Et aujourd'hui, on va rester en Amazonie. Et j'ai demandé à Cédric Ivinec, qui est anthropologue chargé de recherche au CNRS, de nous parler de l'enquête qu'il mène et à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat chez les Sourouis de l'Amazonie, où il a étudié, c'est une société qui est, il en parlera bien mieux que moi, mais qui a ceci de particulier, qu'elle a connu dans un temps assez bref, un passage depuis l'absence quasi complète de contact avec le monde extérieur, à une acculturation, notamment à une conversion religieuse massive. Et ce que Cédric Ivinec a étudié, c'est notamment ce qu'on appelle traditionnellement la littérature orale, c'est-à-dire en particulier les chants, des chants de fêtes de boissons, des chants chamaniques, mais aussi les mythes, qu'il a étudié d'une façon très fine, à la fois en analysant leur dimension linguistique, mais aussi pragmatique, c'est-à-dire les conditions d'énonciation de ces textes. Et il a montré dans cette analyse comment ces textes, ces chants, donc cette littérature orale, traitaient l'événement, c'est-à-dire les singularités. Habituellement, les ethnologues travaillent sur des choses moyennes, sur des individus moyens, et assez souvent, dans la façon dont nous restituons nos informations ethnographiques, nous donnons une situation moyenne de ce que nous observons. Cédric Ivinec a mis au contraire l'accent sur les singularités, sur l'événement, sur des personnalités dont les exploits étaient célébrés, toutes choses qui semblent trancher au fond sur ce que l'on avait l'habitude de considérer comme étant au fond une norme classique dans le monde amazonien. Et c'est de cela dont il va nous parler aujourd'hui. Merci Cédric d'être venu nous parler des Sourouis.
Je remercie Philippe Descola de m'avoir invité dans ce séminaire. Et précisément comme Philippe Descola rappelait l'étonnement qu'il avait eu en arrivant en Amazonie, la surprise de trouver des sociétés beaucoup plus individualistes que holistes. Un mouvement, en quelque sorte, de balancier inverse m'est arrivé lorsque j'ai commencé à étudier les Sourouis. Je m'attendais à trouver une société, certes individualiste, et la société, les Sourouis méritent à plusieurs titres ce qualificatif, mais aussi une société relativement égalitariste et où les individus ne seraient pas soumis trop à l'autorité d'autres. Or, très rapidement, les Sourouis ont insisté en face de... insisté pour souligner qu'ils se considéraient au contraire comme une société très fortement hiérarchisée, dans laquelle certains individus étaient des chefs et auraient été reconnus par tous comme des chefs, ce qui, à vrai dire, ne sautait pas aux yeux dans la situation dans laquelle je les ai rencontrés. mais qui auraient été anciennement beaucoup plus fortement marqués, et où il y aurait eu des chefs très respectés, voire un seul chef pour l'ensemble de la population, qui aurait imposé sa volonté à tous les autres. Pourquoi j'ai choisi d'intituler cette présentation en insistant sur la notion de célébrité? Parce que les Sourouis distinguent une des gens, notamment ces chefs dont je parlais, mais pas seulement, comme des gens chiener, ce qu'ils appellent. Et c'est une notion qu'ils traduisent en portugais par les termes fameux, célèbres, divulgués, comme on dit en portugais, qui les distingueraient des gens du commun qui seraient des gens inconnus, obscurs. Or, les Sourouis, et la plupart des sociétés amazoniennes, mais particulièrement les Sourouis, paraissent un contexte social dans lequel la notion de célébrité paraît pas vraiment pertinente, dans la mesure où ils comptent quelques centaines d'individus, un peu plus d'un millier aujourd'hui, mais dans l'ensemble, une population dans laquelle tout le monde il peut y avoir une interconnaissance généralisée et dans laquelle il semble difficile d'être inconnu. À la limite, pour certaines sociétés amazoniennes, par exemple les Achuars dont parlait Philippe Descola, qui sont dispersés sur un vaste réseau fluvial à plusieurs jours de voyage les uns des autres, la notion de célébrité peut avoir un sens parce que symétriquement, il peut y avoir des inconnus. Au contraire, les Sourouis, même dans la situation dans laquelle je les ai rencontrés, où les plus éloignés ne vivent qu'à quelques heures de voyage à moto les uns des autres, il semble très difficile qu'il y ait des inconnus. La première idée qui vient à l'esprit, c'est donc qu'il y a en quelque sorte une erreur de traduction de la part des informateurs, qu'ils auraient mal compris sens qu'a célèbre en portugais et par extension en français, et qu'ils auraient étendu une notion connexe, un des sens de célèbre, le sens d'admirer, respecter, envier, à l'ensemble du terme et à son sens premier qui est d'être connu de tous. Et pourtant, je voudrais partir de quelques anecdotes, de discussions informelles que j'ai eues avec plusieurs Sourouis, où la notion de célébrité et de connaissance est apparue en filigrane ou au centre de ces notions, de ces conversations, et où la pertinence de la traduction qu'en faisaient les Sourouis s'est progressivement révélée à moi. La première a eu lieu dans les premiers temps de ma recherche chez les Sourouis, à une époque où je ne parlais pas du tout le Sourouis et où je communiquais quasi exclusivement en portugais avec eux. Et un individu que je trouvais sympathique et que je suivais, de qui j'essayais d'obtenir des informations, finit par se trouver un peu gêné et me dit « Mais pourquoi est-ce que tu me suis tout le temps? Tu me poses tant de questions. Moi, je ne suis rien. Je ne suis pas un artiste, alors que chez nous, il y a des gens qui sont des vrais artistes. » Surpris du sens que pouvait avoir artiste dans ce contexte. Et j'essaie de lui demander, mais enfin, qu'est-ce que tu entends par artiste ? Il me dit, mais de toute façon, toi, tu es un étranger. Les étrangers, tu connaisses tous des artistes, tu es peut-être un artiste toi-même, et si ça se trouve, tu dois en connaître beaucoup, enfin, ce n'est pas possible que tu ne connaisses pas d'artistes. Je suis encore plus surpris, je creuse en demandant, mais qui connais-tu comme artiste ? Ah ben moi, je n'en connais pas beaucoup, je ne connais que un de ses cousins, qui se trouvait être un leader sourd-oui. Il me dit, ah non, mais lui, c'est un véritable artiste, c'est un grand chef, il est très respecté, et d'ailleurs, quand il chante, toutes les femmes l'admirent et sont sous son charme, même ma femme a pleuré quand elle l'a entendu chanter. Est-ce qu'il y a d'autres artistes à part cet individu ? Oui, j'en connais même un autre personnellement. Et ce deuxième artiste était un conseiller municipal de la ville de Cacoal, petite ville locale d'Amazonie, à proximité de laquelle vivent les souris. Mais d'autres gens parmi eux, et notamment ce leader, connaissent des plus grands artistes. Et là, il va me chercher, il me montre une photo où ce leader apparaissait en compagnie du président Lula, qui n'était pas encore président, qui était à l'époque encore jeune, en campagne, qui l'avait rencontré. Et il me dit, mais il y a même d'autres gens qui connaissent, il y a tas d'autres artistes que des gens connaissent, et parmi les artistes, les catégories d'artistes, se révèle qu'il y a les acteurs de telenovela et, ce qui est encore un peu, aussi les joueurs de foot. Donc la catégorie d'artistes rassemble aussi bien des sourds-ouïes qui sont des leaders et qui chantent, que des gens qui, effectivement, correspondent à la notion de célébrité qu'on peut avoir, des joueurs de foot, des acteurs ou des hommes politiques, à différentes échelles. Bien plus tard, j'ai rapproché cette anecdote d'une conversation que j'ai eue avec une adolescente sourd-ouïe, un groupe d'adolescentes sourd-ouïes qui était venu me voir d'un air un petit peu petite affaire d'adolescente et viennent me demander « Ah, Cédric, tu sais, Natalia, elle voudrait que tu la mettes en contact avec Thiago Silva. » Là, je suis un peu embêté. Je dis « Mais qui est Thiago Silva ? Je ne connais pas Thiago Silva. » « Ah, mais enfin, comment ça, tu ne connais pas Thiago Silva ? Mais Thiago Silva est chiennaire. Il est chiennaire chez nous et il est chiennaire dans ton pays aussi. » « Bon, mais en quoi, pourquoi Thiago Silva est-il chiennaire ?» Et là, cette phrase est devenue momentanément célèbre, elle a été répétée à tout le monde et je me suis rendu compte que tout le monde riait et que je passais pour un demeuré, puisqu'il s'est avéré que Thiago Silva était en fait le capitaine du PSG, joueur de foot brésilien, et que j'en connais certains joueurs de foot, mais je ne connaissais pas celui-là, et que je passais vraiment pour un demeuré. Et donc, le rapprochement de ces deux discussions me semble attester, l'une en portugais, l'autre en sourd-ouïe, qu'il y a bien dans la notion de chiennaire une notion qui correspond à la notion de célébrité, qui est que tout le monde doit savoir qui est la personne, si on ne le sait pas, on est exclu d'un réseau de conversation et de capacité de pertinence, d'échanger des informations pertinentes, parce que c'est un point de repère pour tout le monde. Dernière anecdote, un peu différente. C'est d'un de mes retours chez les souris, après une longue absence, plusieurs années d'absence, je n'ai pas été pendant 5 ans, je suis accueilli très chaleureusement par les gens chez qui j'avais l'habitude de vivre, qui sont très contents de me revoir. Mais là, tout d'un coup, une expression m'accroche l'oreille en sourd-ouïe et me vexe un peu. C'est on Mon hôte me demande si j'ai faim, on sourit, je dis oui, je veux bien manger et tout. Et là, il appelle sa femme et il lui dit « Mont Blanc a faim, dépêche-toi, va vite faire à manger pour nourrir Mont Blanc. » Et là, je suis un peu attristé parce que bon, ça m'était déjà arrivé qu'on se réfère à moi comme étant Mont Blanc, mais dans des contextes où quelqu'un arrivait, demandait « Mais qui est ce Blanc ?»« Ah, c'est le mien. » Et bon, ça avait un certain nombre d'avantages d'appartenir à un individu, c'est que j'étais sous sa responsabilité et sous sa protection. Mais là, ce qui me vexait, c'était le fait d'être réduit à un exemplaire d'une catégorie ethnique. Ce n'était pas le fait d'être possédé par cet individu qui s'approprie, puisque bon, j'étais tout à fait prêt à reconnaître que c'était à lui que je devais du respect en particulier, parce que c'était lui qui m'avait appris le plus de choses et qui s'était occupé de moi. Mais c'était le fait d'être réduit à une catégorie. Et peu après, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le fait que, pour moi, c'était vexant et blessant d'être réduit comme ça à un exemplaire d'une catégorie, mais que probablement il n'y avait rien de blessant pour les souris, puisque l'alternative, ça aurait été de me désigner par mon nom personnel, et que c'est quelque chose que les souris évitent autant que possible, et personne n'aurait eu l'idée de présenter l'un des souris par son nom personnel, mais aurait dit, ceci serait référé par une catégorie de parenté ou par un terme métaphorique, mais certainement pas par son nom. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur la manière dont on était connu et reconnu et ce que ça impliquait comme classification par rapport à un groupe, par rapport à un collectif, d'être désigné comme individu. C'est donc à partir de ces trois anecdotes et de cette notion de célébrité que je voudrais essayer d'aborder la question de l'individualité dans un si petit effectif démographique en Amazonie, de savoir comment on peut être connu et symétriquement comment on peut rester inconnu, obscur dans un si petit groupe. Il me semble important de formuler la question de cette manière, donc la question de manière différentielle, parce que ça implique que tout le monde ne peut pas être également célèbre en même temps. Quelques informations pour commencer sur le contexte ethnographique des souris du Rondonien. Donc c'est une population du sud de l'Amazonie brésilienne qui a été contactée pour la première fois en 1969, enfin, premier contact pacifique par des représentants de la société brésilienne, qui comptait probablement environ entre 300 et 500 individus avant le contact, très difficile à dénombrer, précisément parce que il n'y a pas eu de compte précis au moment où ils ont été contactés. Et quand on remonte aujourd'hui dans les généalogies, beaucoup de gens disparaissent parce que ce ne sont pas des gens célèbres, et qui comptent aujourd'hui environ 1200 individus, qui vivent dans un environnement complètement bouleversé et un mode de vie sur le plan économique qui a été complètement chamboulé par rapport à leur vie traditionnelle, puisqu'ils étaient des chasseurs horticulteurs itinérants, comme beaucoup de populations amazoniennes, et qu'aujourd'hui, ils vivent de la culture du café, du trafic de bois ou de la vente de crédit carbone, et que leur structure résidentielle a été profondément modifiée. Ils vivaient auparavant rassemblés dans un unique village et ils sont aujourd'hui dispersés en une multitude de petits villages comptant au plus une centaine d'individus. En outre, à partir des années 90, ils se sont massivement convertis au protestantisme évangélique. Cette population présente un certain nombre de traits typiques de l'individualisme et de l'égalitarisme amazonien. Tout d'abord, au niveau de la structure politique. D'abord, en dépit des discours des sourouis, il n'y a manifestement pas de chef suprême de l'ensemble des sourouis aujourd'hui. La FUNAI, l'organisme de protection des Indiens au Brésil, reconnaît bien ce qu'elle appelle un cacique, mais cet individu n'a aucune influence en dehors de son village, face à une poignée d'autres leaders, environ entre 4 et 7 ou 8 peut-être, qui ont un pouvoir qui dépasse l'échelle d'un seul village et qui sont en rivalité, en lutte perpétuelle les uns contre les autres. Et même autrefois, il semble difficile de repérer des moments où il y aurait eu un seul chef qui aurait correspondu au portrait qu'en font les sourouis d'un individu qui aurait été respecté unanimement par tous et qui n'aurait été l'objet d'aucune contestation. Les sourouis sont divisés en clans patrilinéaires exogames qui sont de taille très inégaux et en nombre d'individus et donc en puissance, à qui on reconnaît des capacités propres. Certains sont plus enclins au chamanisme, d'autres plus enclins à la guerre, etc. Mais il n'y a pas de hiérarchie explicite qui ferait de certains clans des supérieurs aux autres. En outre, s'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de hiérarchie explicite des groupes sociaux, il n'existe pas de sanctions qui soient imposées par le collectif. Seule la vengeance personnelle est ressentie comme légitime, y compris aujourd'hui dans les rapports par rapport à l'État. Lorsqu'il y a un meurtre, on considère qu'il peut être normal de laisser la personne se venger et tuer, de laisser les parents de la victime se venger. Mais il serait considéré comme totalement cruel de mettre un meurtrier en prison, comme la FUNAI avait essayé de le faire. Et la violence interne aux sourouis est fréquente. Il y a des cas de meurtre individuel encore aujourd'hui, et autrefois, il y a eu des périodes où il y a eu des guerres durables de certaines factions contre d'autres. C'est non seulement au niveau de la structure politique, mais aussi au niveau des trajectoires individuelles que l'on peut voir l'importance de l'individualisme. La plupart des grands leaders actuels ou passés sont en quelque sorte des self-made men qui n'avaient pas forcément des parents qui étaient eux-mêmes des leaders. Et inversement, certains individus avec qui, l'individu avec qui j'avais beaucoup travaillé, qui était le fils d'un individu qui avait été probablement le sourou le plus puissant dans les années 50, s'était retrouvé complètement démuni à la mort de son père et avait dû céder toutes ses sœurs et même les femmes qu'il allait épouser à des individus plus puissants, puisqu'il n'y avait plus personne pour le protéger. Il n'existe aucun héritage de biens qui se transmettrait de génération, du père aux enfants, sauf quelques rares objets chamaniques provisoirement, et peut-être, parfois, dans certains cas, les objets métalliques. Et ça se voit encore au niveau des conceptions de la personne. les souris conçoivent que tous les gens sont des individus qui ont une intériorité opaque aux autres. Ce qui relève de l'intériorité est ce qui relève du cœur, ce qui est désigné par le terme agon, cœur, qui signifie ce qui est au centre, ce qui est caché, ce qui est invisible, ce qui est aussi inexplicable. Il existe d'ailleurs en souris, dans le lexique souris, assez peu de termes décrivant des émotions, ou plutôt, il y a des termes qui décrivent des émotions, mais ce sont des termes qui décrivent simultanément l'état interne de l'individu et ses manifestations interactionnelles. Par exemple, le terme « attendre », qui signifie « être furieux », signifie aussi « être agressif »,« crier », etc. « Ariwa », qui signifie « être joyeux », signifie aussi « faire du bruit pour manifester sa joie ». D'ailleurs, dans les récits, on spécule peu sur les motivations psychologiques des individus, sur leurs manifestations émotionnelles, pour expliquer leurs actions. Les pensées sont rendues comme étant un discours interne à la personne qui n'a pas de destinataire, qui est dit « il a dit » sans que l'on dise à qui il l'a dit. Et d'ailleurs, les opinions sont décrites comme toujours strictement individuelles. Il est impossible de dire en souris « et alors ils pensèrent qu'ils allaient faire ceci » ou « nous pensons que nous allons faire ceci ». On dit « chacun d'entre eux a pensé « je vais faire ceci » ou « chacun d'entre nous a pensé « je vais faire ceci ». Dans ce contexte où tout individu en est un, il me semble important de distinguer deux notions et deux processus différents. D'une part, l'individuation comme processus qui s'applique à tout individu du fait de son accession, de sa croissance, son accession à l'âge adulte, qui est réussi par tous, même si c'est réussi avec plus ou moins d'éclat, qui relève de la formation de la personne et qui s'exprime à la fois par des théories réflexives sur les étapes reconnues de la croissance qui sont la preuve de l'accession à certaines capacités, la marche qui fait qu'un enfant est doté d'une âme, ensuite certaines capacités qui prouvent l'accession à certaines capacités intellectuelles, certains actes qui prouvent la capacité à dialoguer, etc., à parler correctement, qui prouve le développement des facultés intellectuelles chez l'enfant d'âge moyen, et qui s'exprime aussi par un certain nombre de rituels reconnaissant l'accession à certaines capacités, principalement chez les souris, des rites de première chasse pour les jeunes garçons. Lorsqu'ils ont tué un animal de telle espèce pour la première fois, ensuite on accomplit un rite qui leur permet ensuite de rechasser cette espèce et l'obtention de divers ornements corporels, étuis péniens pour les garçons, tatouages faciaux pour les deux sexes qui marquent l'accession à un certain statut social et à certaines capacités, notamment à l'autonomie individuelle et au mariage. C'est donc à la fois des étapes de la reconnaissance de l'accession au statut de personne pleine de l'autonomie individuelle, mais c'est en même temps l'insertion dans un réseau de reconnaissance et de dépendance par les gens qui donnent ces ornements et qui accomplissent ces rites. Tout autre est le processus que d'individuation comme singularisation, comme distinction, comme magnification de certains individus, car même reconnus comme une personne adolescente ou adulte, tous les individus ne sont pas égaux. Certains individus ne restent longtemps, et parfois même définitivement, qu'un membre d'un groupe qui sera désigné par le nom de son aîné, le groupe de ses frères, essentiellement de ses frères nés de même mère, qui seront désignés par le nom de l'aîné suivi augmenté du suffixe du pluriel. Et sinon, on ne se référera à eux que comme au cadet de cet individu. En revanche, certains vont être distingués comme étant des individus à part entière, sans se référer à leur aîné. Cette singularisation concerne essentiellement les hommes. Les femmes sont en effet prises dans une contradiction, parce qu'elles ne peuvent être importantes qu'en tant qu'épouses. Une femme célibataire est inconcevable chez les Sorouis, sauf à ce qu'elle soit vraiment vieille, veuve, et vraiment déficiente, peu attirante. Et une femme n'est singularisée que à proportion de son époux. Une femme importante, c'est d'abord l'épouse d'un homme important. Or, un homme puissant, un homme important, c'est avant tout, c'est souvent un homme polygame. Donc, les femmes fortes sont celles qui sont les premières épouses, en général, et celles qui réussissent à contrôler ou à éliminer les secondes femmes. D'ailleurs, souvent, des femmes, lorsque leur homme, leur mari gagne en puissance, essayent de lui faire épouser des sœurs cadettes, parce que, comme ça, au moins, elles sont sûres de rester l'épouse principale. Et c'est apparemment à ce processus d'individuation comme singularisation que le terme « chiennaire » célèbre fait référence. En effet, les manifestations, premières manifestations de la célébrité sont des manifestations discursives. Les gens chiennaires sont ceux qui sont mentionnés pour eux-mêmes en tant qu'aînés ou en tant que point de repère dans l'ensemble de la population sourouie comme ayant une faction derrière eux. Et ce sont souvent des gens qui, du coup, apparaissent dans de nombreuses histoires, dans de nombreux récits, dans de nombreuses discussions informelles, lorsqu'il y a tout simplement un petit conflit, un problème à résoudre, etc. Mais que vont faire les gens de un tel? Et ce un tel est la personne qui est chiennaire. Mais souvent, lorsqu'il s'agit de récits d'événements passés, ils n'en sont en général pas le sujet, ou pas le déclencheur premier de ces histoires, mais plutôt la conclusion ou l'articulation entre deux histoires. Je m'explique. En général, ce qu'on raconte chez les Sorouis, les anecdotes historiques que l'on raconte, ont trait à des événements guerriers ou rituels dans lesquels il y a quelque chose d'un peu surprenant, inhabituel qui s'est passé, souvent quelque chose d'un peu ridicule. Quelqu'un qui a eu peur face à l'ennemi et qui est parti en courant, ou quelqu'un qui n'a pas réussi à boire de la bière comme il fallait, etc. Et c'est ça qui fait le récit qui est raconté, on rit, on commente, etc. Et ensuite, à la fin de ce récit, intervient la personne, le personnage chiennaire, qui est soit celui qui rétablit l'ordre, qui arrête la catastrophe militaire si quelqu'un s'était enfui face à l'ennemi, par exemple, ou qui sert à situer quand a eu lieu l'action. C'était du temps d'un tel, c'était du temps où un tel était chef, ou c'était du temps où un tel organisait tel rituel. Ils ne sont donc pas forcément ceux dont on parle beaucoup, mais ceux par rapport auxquels on se situe dans les histoires que l'on raconte. Maintenant, je vais donner quelques éléments sur le rentrer plus dans le détail du concept lui-même. Chiennaire, c'est morphologiquement un terme qui peut être décomposable en un pronom personnel, celui de la troisième personne, d'un suffixe qui n'est pas de valeur sémantique très important, et d'un deuxième suffixe qui a une valeur intensive, de telle sorte qu'on pourrait le traduire par « chiennaire », ça veut dire « lui-même ». Cette locution est fortement lexicalisée parce qu'elle peut devenir un mot entier que l'on insère dans une phrase, soit comme une locution verbale, je suis célèbre, ou machinaire, soit comme un adjectif, des gens célèbres, paeter chienner, soit même comme un nom, chiennerei, en lui mettant le pluriel, des célèbres. Mais j'ai toujours un petit peu de mal avec sa morphologie, parce qu'en même temps, il reste décomposable, parce qu'on peut réutiliser les deux suffixes et faire varier le pronom devant. L'expression « owener » avec la première personne du singulier existe et signifie non pas tant « je suis célèbre », mais « je suis moi-même, je suis important, je suis quelqu'un, je suis respectable, je suis là ». Il est très peu, à vrai dire, il est rarement utilisé dans le discours direct pour dire je suis célèbre, mais plus exactement dans des discours cités où on dit un tel dit je suis célèbre ou un tel dit je suis important, et plus particulièrement dans des discours rituels, particulièrement dans des chants. La deuxième personne, ça m'a été dit comme étant possible, mais je ne l'ai, à vrai dire, jamais rencontré dans tous les textes que j'ai transcrits. À la première personne du pluriel, en particulier à la première personne du pluriel inclusive, l'expression qui serait le décalque exact, paenner, n'existe pas, mais il existe une expression qui est quasi formellement identique, qui est païter. Pa est le pronom de la première personne inclusive. La première personne inclusive, c'est nous et vous. Et iter est le même suffixe que ner, c'est simplement une variation en fonction de son environnement phonologique. Et cette expression, païter, est l'autodénomination ethnique des souris. Païter, ça signifie nous les souris, nous-mêmes, nous les souris. Par extension, ça peut, dans certains contextes, vouloir signifier humain par opposition à animal ou plutôt à esprit. Les autres formes, en revanche, de la première personne du pluriel exclusive ou des autres formes de la deuxième personne du pluriel et de la troisième personne sont, elles, inusitées. Les traits qui en ressortent, c'est donc qu'il y a une connexion avec l'idée d'individualité, de singularité individuelle, mais aussi avec le fait qu'il est difficile de le dire de soi-même ou directement à autrui, puisqu'on ne dit pas à autrui « tu es célèbre », mais que ça passe toujours par la médiation d'un autre. Soit c'est quelqu'un d'autre qui dit « je suis célèbre », soit c'est, on dit, d'un autre « il est célèbre ». D'où il y a bien une idée qui renvoie à la notion de réputation et d'insertion dans un réseau de conversation. Sur le plan, non plus morphologique, mais sémantique, le contraste, l'opposé de chienner, c'est probablement hor, qui signifie mauvais, nul, inefficace, inutile. Ce n'est pas vraiment négatif dans le sens où le serait nan, qui signifie malveillant, malfaisant. Mais l'opposé des paeter chienner, des gens célèbres, ce sont les paeter lot, déclinaison de l'adjectif « hor », des gens de peu, des gens qui sont obscurs, qui ne sont rien. « Chienner » est un qualificatif qui s'insère dans un réseau sémantique dans lequel il y a un certain nombre de termes proches qui sont souvent associés, qui sont considérés comme quasi synonymes ou comme impliqués par Schienner et qui ont chacun leur contraste propre. Le terme qui est quasi synonyme de Schienner, c'est d'abord l'abiwai, qui signifie littéralement le propriétaire de la maison, le maître de la maison, mais qui par extension signifie le chef. L'opposé de l'abiwai, c'est le shikoar, c'est-à-dire celui qui est l'assistant d'un autre, le dépendant d'un autre, l'employé d'un autre. Dans ce contexte, l'opposition se réfère au champ des relations politiques, particulièrement à celui des relations de commandement militaire, où dans une expédition militaire, dans une expédition d'attaque, il y avait un chef de l'expédition, l'abiwai, qui était celui qui marchait devant, et d'autres qui étaient ses assistants, qui étaient là pour achever le travail si l'ennemi n'avait pas été tué. C'est aussi aujourd'hui le terme qui décrit les soldats par opposition aux officiers dans l'armée. Ça ne se limite pas au champ donc, des relations militaires, mais aussi au champ des relations de résidence. Il y a dans un village souroui celui qui en est le chef, qui en est le propriétaire, qui l'a fondé, et des gens qui ont été autorisés à venir s'y installer par lui. Et ça désigne aussi le champ des relations de travail agricole, puisque c'est quelqu'un qui possède un jardin, peut y faire venir travailler des gens qui seront ses employés, qui sont souvent ses frères cadets, et peut aussi, quelqu'un qui possède un village, peut aussi y concéder des jardins à des gens qui seront aussi, de ce point de vue, ses chicoars, ses employés. Deuxième terme, plus proche encore de Chienner, c'est Garbaiwai, qui signifie littéralement le maître du temps. Maître du temps à la fois au sens du temps chronologique et du temps météorologique. Le même double sens en souroui qu'en français. Maître du temps, ça signifie que certains individus pouvaient accomplir en premier certains actes, notamment la récolte de certaines ressources forestières, des noix de Brésil, de la pêche à la livrée, etc., sans que les éléments, la tempête, ne se déclenche et ne se fâche. Et c'est en même temps le maître du temps, parce que c'est lui qui impulse le rythme des activités sociales, qui donne le départ de certaines activités. Par opposition au Ngarbaiwai, au maître du temps, il y a ceux qui sont seulement des suiveurs, des seconds. Donc là, on se réfère donc au rythme de la vie sociale. Autre couple proche de Chienner Hor, il y a Roicha et Bok, être, avoir des choses, être riche, être savant, par rapport à être nu, pauvre, malheureux, malade, voire mort. Là, on se réfère au champ des conditions économiques, corporelles, aux informations, aux interactions quotidiennes informelles, dans lesquelles certains individus, ceux qui sont Chienner, sont le centre de l'attention parce qu'ils sont beaux et ils ont beaucoup à donner. Toujours dans ce champ de ces informations, les gens Chienner sont aussi kobamnés, savants, par opposition à des gens kobards, ignorants. Ça se réfère au fait qu'il y a des gens à qui on va demander conseil pour toute une série de choses, aussi bien dans du savoir théorique, pour raconter un mythe, par exemple, que pour savoir s'il est pertinent de s'engager dans tel ou tel projet. Enfin, les gens Chienner sont perewepit, ils échangent sans cesse, ils donnent, ils sont généreux, par opposition à des gens qui sont roatin, qui sont attachés aux choses, qui sont radins. Et ça se réfère notamment au fait que ce qui est important dans la célébrité, c'est le fait que toute richesse devient publique, échangée et consommée en public, par opposition aux gens de peu qui n'ont rien du tout et qui, quand ils reviennent de la chasse, se cachent pour manger leur gibier sans en donner parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Les gens qui sont savants, qui sont des grands chasseurs, qui sont célèbres, quand ils reviennent, ils affichent leur gibier au milieu du village et ils appellent tout le monde pour en distribuer. Les gens chiennaires sont aussi des manayèdes, des gens qui tuent, par opposition à des roamiyoum, des gens qui sont impuissants, inefficaces, malchanceux, impuissants à la fois au sens cynégétique, qui ne sont pas capables de tuer le gibier, mais aussi d'être, sinon impuissants sexuellement, du moins méprisés par les femmes. Là, ça se réfère aux conditions nécessaires de la célébrité et de la richesse. On ne peut être un homme puissant que si l'on est un tueur. Et enfin, les gens chiennaires sont des gens mangueux, honnêtes, bons, par opposition aux gens qui sont rekedekid, mauvais, fourbes, scélérats. Là, c'est plutôt une conséquence morale et interactionnelle qui est que les gens chiennaires sont des gens riches, ce sont des gens satisfaits, donc des gens qui n'ont aucune raison de s'en prendre aux autres et de voler ou, voire pire, les gens pauvres sont constamment accusés de vouloir assassiner les gens riches pour prendre leurs femmes. On peut remarquer, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, que chiennaire... qu'un des termes qui n'est pas utilisé, c'est le terme pacomite, puissant, qui est lui plutôt réservé au champ du chamanisme. Et d'autre part, que la plupart de ces termes excluent d'emblée les femmes. Les seules choses qui puissent s'appliquer aux femmes, ces termes qui puissent s'appliquer aux femmes, c'est Roitsha et Kobamne, qui se réfèrent à leur savoir spécifique, à savoir l'artisanat, la cuisine, l'éducation des enfants. Maintenant, je voudrais voir dans quelle mesure cet ensemble de distinctions conceptuelles, plus ou moins superposables entre gens célèbres et gens chefs, gens riches, savants, etc., correspond à des réalités matérielles. Sur le plan économique, la société Souroui est en effet, je m'en suis rendu compte, aujourd'hui au moins, une société profondément inégalitaire. Certains Souroui vivent dans des maisons qui sont bien confortables, quasiment en dur, avec des toits de tuiles. Ils possèdent des voitures, parfois plusieurs. Certains individus peuvent posséder jusqu'à 5 épouses et mangent tous les jours largement à leur faim. Quand d'autres... au premier plan, vous voyez une maison qui ne tient quasiment plus debout, dans laquelle vivait le beau-frère du propriétaire de la maison qui est au fond. Et ce sont des gens qui, eux, souffrent fréquemment, au moins dans les années 2000, il arrivait fréquemment qu'ils souffrent de la faim. Et certains n'ont même pas d'épouse. Autrefois, les inégalités s'exprimaient essentiellement en termes matrimoniaux. Certains n'avaient aucune épouse et j'ai trouvé un individu qui avait eu jusqu'à 11 épouses, ce qui était un cas exceptionnel, mais il était fréquent d'en avoir 3 ou 4. En termes d'outils métalliques, une grande partie de la population ne possédait pas d'outils métalliques quand quelques-uns en avaient jusqu'à 7. C'était 2 haches, 3 machettes et 3 couteaux, c'était le plus riche en termes d'outils métalliques. C'est pas non plus... Et enfin, en termes de résidence, certains pouvaient habiter dans des grandes maisons collectives, comme celle que vous voyez à droite, c'est très très long derrière, là on la voit de face, ce qui nécessitait de pouvoir mobiliser beaucoup de gens pour la construire, quand les autres, au contraire, ne pouvaient de se contenter que de petits abris comme celui qu'on voit à gauche au premier plan, qui, là, étaient ouverts à tout vent et qui étaient construits individuellement. En outre, dans la maison, au sein de la maison, les positions étaient hiérarchisées. Le labiwai, le maître de maison, le chef, vivait au fond, dans la partie la plus confortable, la plus éloignée de la porte. Et c'était une position de prestige. Sur le plan politique, les inégalités sont telles qu'il n'y a aujourd'hui que très rarement des discussions, qui finissent en général très mal, lorsqu'il y a des discussions, ça devient très tendu. Et plus exactement que le moment de la discussion, de la délibération est impossible à apercevoir pour l'ethnologue. On passe d'un moment où tout le monde commence à faire des projets qui sont exprimés indirectement, de manière floue et souvent assez grandiose, en les faisant exprimer par d'autres, en disant « Ah oui, oui, un tel, il va faire telle chose, etc. » Et puis, finalement, aucune réunion n'a lieu, aucune décision n'est prise, le leader n'exprime même pas de décision. C'est simplement, tout d'un coup, on se rend compte que l'action est mise en œuvre par un leader et que la seule justification que donnent les gens pour le suivre, c'est « Ah, mais je suis avec lui. Donc, il a dû décider ça, et je le fais. » Et, enfin, sur le plan des capacités individuelles, je l'ai dit, il y a des gens donc, qui sont reconnus comme, par exemple, des bons chanteurs par rapport à des mauvais. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la situation actuelle, où les inégalités, au moins économiques, sont très visibles, est considérée comme plus égalitaire que ne l'était la situation antérieure au contact, probablement pour deux raisons. D'une part, parce que le marché matrimonial a été fortement détendu par l'apport de femmes étrangères, soit des Indiennes, d'autres groupes ethniques voisins, soit des Blanches, et parce que depuis l'insertion dans le trafic de bois, l'économie est ressentie comme en quelque sorte libéralisée, où tous ont leur chance d'essayer de trouver un bûcheron pour vendre du bois, alors qu'auparavant, le destin social de l'individu aurait été beaucoup plus déterminé par sa naissance. Et qu'en outre, avec la conversion à l'évangélisme, de nouvelles carrières et de nouveaux types de spécialités se sont développées, notamment de devenir pasteur, et aussi par le champ des études à l'école. Certains ont pu faire de nouvelles carrières. Ce qui est donc intéressant, c'est que les Souroui étaient non seulement conscients de ces inégalités interindividuelles, mais qu'ils en soulignent le caractère autrefois héréditaire et même encore largement. Et, bon, à vrai dire, les mécanismes fondamentaux de ces inégalités Souroui ne sont pas très spécifiques aux Souroui, parce qu'ils valent pour beaucoup de sociétés amazoniennes, et ils se fondent peu, dans les mécanismes les plus fondamentaux, sur l'héritage en ligne d'une génération à une autre. D'une part, beaucoup sont liés à la naissance, certes, mais c'est plus la position au sein d'une génération qui joue, puisque pour être un homme puissant, l'idéal est d'être né après beaucoup de sœurs, puisque les Souroui pratiquent une règle de mariage avunculaire, les filles sont d'emblée promises à leur oncle maternel. Donc, logiquement, si vous voulez avoir rapidement des épouses, il vaut mieux... Bon, déjà, pour avoir des épouses, il faut radicalement avoir des sœurs. Et en plus, il vaut mieux avoir des grandes sœurs parce que vous aurez plus rapidement des épouses, des nièces que vous pourrez épouser. Et il vaut aussi mieux avoir des frères, mais des frères cadets. D'ailleurs, quelqu'un m'a expliqué que dans une fratrie, seuls les trois premiers hommes, les trois premiers nés, pouvaient être des gens chiés de mère. Bon, il se trouve que lui était le troisième né. Donc la théorie était un petit peu biaisée. D'autre part, autre trait amazonien, pour trouver une épouse, il faut avoir fait la preuve de son courage guerrier, de sa capacité à tuer. Et les capacités guerrières, et pas forcément exceptionnelles, mais simplement reconnues, avoir participé comme second à une expédition guerrière, s'être défendu face à une attaque d'ennemis, ne pas avoir fui, était la condition de toute carrière politique, et a fortiori pour des gens qui auraient été nés comme des cadets. La guerre est étroitement liée à la célébrité, en outre, parce que au retour d'une expédition de guerre, on pouvait chanter devant une assemblée silencieuse et craintive. Or, le problème de la guerre était précisément que c'était une capacité qui était assez aléatoire, le courage était assez aléatoire, et qui avait tendance à mettre en danger les hiérarchies installées, les chefs, puisque après chaque expédition guerrière, tous les souris avaient très peur que les ennemis viennent se venger. Donc ils s'enfuyaient dans la forêt, ils se dispersaient, et il n'y avait plus de chef, puisqu'il n'y avait plus de village, donc plus de propriétaires du village. Donc les chefs avaient tendance à dissuader les individus, les jeunes individus, de se lancer dans des expéditions guerrières. D'ailleurs, tout le rite de préparation de l'expédition guerrière vise souvent à plus à trouver des prétextes pour pouvoir l'arrêter, voire des mauvais présages qui diraient qu'il ne faut pas se lancer dans l'expédition guerrière, que à raffermir le courage de ceux qui veulent s'y engager. Et d'ailleurs, les Souris essayent de souligner toujours le poids de l'ascendance dans ces qualités guerrières pour expliquer aux jeunes gens que s'ils n'ont pas eu un père grand guerrier, donc un père qui aurait déjà été en position de chef, vaut mieux pas s'y lancer parce qu'ils n'y réussiront pas. Le courage guerrier est en effet serait fondé sur la confiance dans la protection accordée aux guerriers par ses ancêtres, ses grands-pères, qu'il doit rencontrer en rêve pour s'assurer qu'ils le protégeront face aux armes des ennemis. Je ne sais pas si ces rêves jouaient vraiment dans les expéditions de guerre externes, mais au moins dans les conflits internes aux Souris, lorsqu'il y a des discussions qui menacent de dégénérer en bataille. C'est un argument qui est mobilisé, au moins pour rassembler une faction derrière soi. Lorsque l'on se plaint d'un tel, et que quelqu'un veut dire « Non, mais il faut me soutenir, là », il va dire « Non, mais vous savez, je n'aurais pas peur d'aller l'affronter, et c'est moi qui gagnerai, parce que vous savez qui était mon grand-père. » Donc là, bien, la revendication d'un héritage en ligne d'une génération à une autre. C'est toujours des grands-pères morts que l'on doit ainsi invoquer. Mais si l'homicide était une condition de la célébrité et de la respectabilité, et la voie la plus rapide pour y accéder, c'est donc une voie risquée dont on essayait de dissuader les gens, et ce n'était surtout pas la seule, ni la plus légitime, ni la plus conforme au modèle même de la célébrité. Car ce par quoi s'exprimait la richesse, la chefferie, la maîtrise du temps, le fait donc d'être Roïtcha, Labiwai, Garbaiwai, c'était surtout une activité que les Souris nomment « boire de la bière douloureuse », que je traduis par « fête de boisson », qui est un rituel de consommation excessive et publique, ostentatoire de bière, où on produit énormément de bière de telle sorte qu'on ne peut pas la consommer et qu'on la gâche ostensiblement, sorte de une forme qui évoque quelque peu le potlatch de la côte nord-ouest. Il y a plusieurs échelles à laquelle cette activité peut se réaliser chez les Souris. La première échelle, c'est celle d'une relation entre alliés. C'est le niveau le plus élémentaire, le plus simple, et en même temps le plus fort symboliquement. En effet, ça consistait à ce qu'un preneur de femme, quelqu'un qui venait de recevoir une femme, produise de la bière de maïs en excès, la fasse fermenter longuement et publiquement, et ensuite la fasse consommer publiquement à celui qui, au frère de sa femme, au donneur de femme, jusqu'à ce que ce dernier meure symboliquement, c'est-à-dire qu'il perde conscience sous l'effet de l'alcool, et que, perdant conscience, il lui cède tous ses ornements, ses flèches, ainsi que de la viande, s'il en avait. Et avant quoi ? Avant de mourir, il lui était donné l'occasion de danser publiquement et de chanter. Des chants qui seront l'instrument de sa réputation. Il y avait là, dans cette interaction à l'initiative de quelqu'un de celui qui produit la bière et qui a pris l'épouse, une forme d'affichage des dettes matrimoniales, puisque le producteur de bière, le preneur de femmes, produit ce dont le donneur de femmes peut se plaindre qu'il a été privé, à savoir la bière que produisent les femmes. Et il lui a dit en quelque sorte, voilà, tu m'as donné une femme, tu te plains de ne plus avoir de sœur pour te nourrir, vas-tu être capable de manger, de consommer ce que cette femme produit pour moi ? Inversement, le buveur rend les flèches et les ornements que le preneur de femme avait dû donner au moment de la cérémonie de mariage. Enfin, la cérémonie, c'est un bien grand mot, mais au moment où on va prendre la femme pour la ramener chez soi, on donne en échange des flèches et de la viande et éventuellement des... Bon, les ornements, le cas est un peu plus compliqué, je le laisserai de côté. Mais on donne des flèches, c'est le bien qui est cédé en échange de la femme. Et donc, celui-ci rend ce qu'il a obtenu, symboliquement, ce n'est pas forcément les mêmes flèches, ce qu'il a obtenu à l'occasion de la cession de sa sœur. Cette activité, qui a toujours lieu en public, nécessite en général de mobiliser sa fratrie pour avoir assez de maïs pour produire, pour en offrir à son beau-frère. Et en général, ça s'adresse à une fratrie, non seulement l'aîné des beaux-frères, donc on invite non seulement l'aîné des beaux-frères, mais tous ses cadets à boire. À cette échelle, même si l'on a chanté, la fête n'apparaît pas vraiment encore comme le moyen d'atteindre véritablement la célébrité et la réputation, car c'était une activité très fréquente, mais ça permet juste d'atteindre à ce qu'on pourrait qualifier de respectabilité, d'être un peu chien de nerf en quelque sorte, quelqu'un de respectable, parce que l'on consomme publiquement sa nourriture. En revanche, ce qui permettait véritablement d'accéder à la célébrité, c'était l'organisation d'une fête à une échelle plus vaste entre des personnes qui n'étaient pas alliées. Là, l'interaction se renverse et ce ne sont plus les producteurs de bière, les preneurs de femmes qui sont à l'origine, mais ce sont des gens qui n'ont pas reçu de femmes, qui provoquent des gens dont ils n'ont pas reçu de femmes. Enfin, ils peuvent être mariés, mais ils s'adressent à des gens qui ne sont pas leurs beaux-frères, donc pas des gens dont ils pourraient recevoir de la bière par leur simple fait de leur relation d'alliance. Ils vont provoquer des gens lointains, des gens qui ne sont rien pour eux, par une provocation rituelle, un acte qui consiste à aller envahir leur jardin ou enlever leurs enfants, peu importe. Et c'est donc une façon de réclamer de la bière, de dire « Non mais moi, je serai capable de boire tout ce que tu vas produire. » Donc, ça mobilise un cercle social beaucoup plus vaste. Ça nécessite de mobiliser une faction beaucoup plus vaste, pouvant s'étendre parfois à la moitié de la population, en théorie au moins. Et pour pouvoir faire ce rituel de provocation est ressenti comme quelque chose de très difficile, de très dangereux, parce que l'on ne sait pas combien l'autre va, en retour, être capable de mobiliser de parents à lui pour produire de la bière, qu'il va falloir boire de la bière tout au long d'un cycle qui va durer pendant un an, et donc qu'il faut être certain d'avoir des gens qui viendront consommer de la bière avec vous et offrir des flèches pour pas que vous vous retrouviez à court de flèches et d'ornements à offrir en échange de la bière. Donc il faut négocier secrètement avec ses parents pour avoir leur accord tacite pour accomplir cette provocation. C'est donc, en outre, l'occasion de participer à des types de fêtes plus variés, qui ont des procédures rituelles qui sont différentes à chaque fois, qui correspondent à chaque fois à des variétés de chants différents, et qui permettent d'accéder à des productions beaucoup plus mémorables, d'une part parce que la bière va recevoir un nom rituel qui servira ensuite à désigner un espace de temps, l'année où a eu lieu ce rituel, qui permettra de se situer dans le temps ensuite lorsque l'on racontera des événements passés. Et enfin, cela permet d'accéder, de mettre en place différents modes de reconnaissance et de voie d'accession à la célébrité. Dans un cas, on a celui qui sera le premier buveur, qui sera déclaré le premier buveur, celui qui accomplit la provocation rituelle, qui est, lui, reconnu par ses parents consanguins, des membres de son clan agnatique, de manière discrète, alors que le producteur de bière, celui qui est défié de produire de la bière, qui sera désigné comme le maître de la bière, lui est reconnu par l'intermédiaire de gens qui sont pour lui des affins, et non plus seulement, simplement des alliés, qui le désignent comme étant celui qui, parmi leurs affins, est le plus susceptible de produire de la bière. De fait, ces deux positions ne circulent pas de manière similaire. Les premiers buveurs, il est beaucoup plus de gens ont pu devenir premiers buveurs en étudiant les annales dans la mémoire, les annales orales des sourouilles, dans la mémoire des sourouilles des années 50 aux années 80. Beaucoup plus de gens ont pu devenir premiers buveurs et le sont souvent devenus beaucoup plus jeunes. Au contraire, être maître de la bière, on le devenait plus vieux et de manière plus stable. On avait plus tendance à ressolliciter plusieurs fois les mêmes maîtres de la bière. En outre, au sein des buveurs, le premier buveur, progressivement, avait une position distincte au sein du groupe. Non seulement ces groupes sont organisés de manière différente, chez les producteurs, on a d'un côté quelqu'un qui est le maître de la bière et de l'autre des gens qui sont simplement ses assistants et qui sont noyés dans une masse indéterminée, qui ne sont pas du tout reconnus par là. Alors que chez les buveurs, on va avoir toute une série de gens qui vont boire et danser ensemble et chanter les uns à la suite des autres, avec une hiérarchie continue du plus prestigieux au second, puis troisième. Et le premier buveur va être progressivement au cours du cycle détaché et avoir une position intermédiaire avec celle du maître de la bière, où il va devenir beaucoup plus calme, beaucoup moins bruyant que les autres, alors que les autres s'agitent, sont violents vis-à-vis du maître de la bière. Ce qui correspond à deux formes d'excellence qui sont distinguées par les sourouilles. L'une qui est décrite par le terme, la locution « shimapangpang », qui signifie en quelque sorte « être exubérant », se faire remarquer, être audacieux, être innovant, c'est un terme positif, mais avec une nuance qui peut aller vers un peu tapageur, un peu trop bruyant, et qui caractérise particulièrement à la fois les guerriers de retour d'une expédition victorieuse, les seconds buveurs, les buveurs par opposition aux producteurs, et de bière, et au sein des buveurs de bière, les seconds buveurs par opposition aux premiers buveurs. L'autre terme, c'est shimakoregehum, qui signifie celui dont la parole a du poids, celui qui ne plaisante pas, celui qui parle bien. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'exprime et qui désigne les... De manière générale, les champs de fête par opposition aux champs de bière, aux champs de guerre, pardon, les producteurs par opposition aux buveurs, ou le premier buveur par opposition au second buveur. Et de manière générale, Shimako Regehum est plus valorisé, plus rare que Shimapanipanien. Shimapanipanien, c'est quelque chose qui connote les jeunes gens ambitieux, alors que Shimako Regehum, ce sont déjà les leaders bien établis. Ce qui permet de voir donc qu'il y a une diversité des modes de reconnaissance et d'excellence dans cette individualisation, dans cette célébrité. Si j'ai 5 minutes pour terminer. J'en viens maintenant à comment à la manière dont cette célébrité s'exprime. Vous l'avez vu, à chaque fois, ce sont des activités dans lesquelles cela se conclut par un chant, que ce soit la guerre, au retour de la guerre on chante, ou lorsque l'on a bu de la bière, on chante, et même le producteur de bière, le maître de la bière, lorsque le cycle annuel s'achève, si c'est une fête à l'échelle entre non-alliés, à la fin, il aura une occasion unique de chanter. Or, cette manière d'être reconnu par son chant s'oppose, à mon avis, au fait d'être connu par son nom personnel. Comme je l'ai dit au début, comme je l'ai raconté, on évite autant que possible de citer les noms des gens, et tout particulièrement des noms des gens célèbres. Les noms chez les Sorui sont attribués en général, jamais par les parents directs, toujours soit par des oncles maternels, soit par des grands-parents, de manière assez informelle. Un individu va donner un nom à un nouveau-né, et nom qui est fait à partir d'un rêve qu'il a fait, qui lui a révélé, qui lui a confirmé une capacité qui lui est déjà en général reconnue par ses actes, soit dans le champ de la guerre, soit dans le champ de l'agriculture, soit dans le champ du chamanisme. Les noms qui sont faits font référence à un élément du rêve source, mais ne permettent pas de l'identifier, ne le décrivent pas directement. Ces noms sont en général plutôt laudatifs. Ils se réfèrent au fait que l'individu serait un grand guerrier, un grand agriculteur, un grand chaman, etc. Et ces noms ne peuvent être prononcés que par des ascendants, ou à la limite par des aînés, ou par des non-parents, mais jamais par des enfants ou des gens de même génération. Et on évite aussi les noms des morts, alors même que par contre on chante leur chant. Et autant le donneur de noms est fier des noms qu'il a donnés et rappellera en général souvent à la personne qui lui a donné son nom, ou énumérera tous les noms qu'il a donnés, autant les gens qui reçoivent des noms, qui peuvent en recevoir de plusieurs personnes, on peut avoir plusieurs noms, font peu attention à ces noms, parfois les oublient, peuvent me dire « oui, j'ai un autre nom qui m'a été donné, mais je ne le connais pas ». C'est surprenant. Et alors même que le nom est censé exprimer des qualités que possédait la personne qui les a nommés, et qu'en leur nommant, celui-ci s'efforcerait de leur transmettre, les gens n'ont pas trop envie qu'on évoque ces qualités, manifestement, parce qu'ils trouvent assez désagréable qu'on prononce leur nom en leur présence, et voire ne veulent pas donner leur nom, donnent des pseudonymes, ou refusent de donner le nom de leurs parents en disant qu'ils ne les connaissent pas, ce qui est parfois vrai. En revanche, les gens sont très contents de citer leurs chants, de citer les chants de leurs parents, et y compris de rechanter des chants qui ont été chantés par des gens de leurs propres parents qui sont décédés. À la différence des noms qui sont donnés et énoncés par autrui sur la base d'une expérience vécue par autrui, les chants, eux, sont composés sur la base par soi-même et énoncés par soi-même sur la base d'une expérience qui a été vécue par soi-même. En outre, alors que les noms peuvent faire preuve d'une inventivité, on peut choisir n'importe quel syntagme comme nom, les chants doivent se conformer à un certain nombre de genres lyriques, des chants de guerre, des chants de tel ou tel type de fête, qui sont chacun considérés comme la manière de dire la guerre, la fête, etc., terme ewa qui signifie dire, ou comme, parce que cette manière de dire s'exprime à la fois par un air musical et par un ensemble de métaphores qui sont inséparables, comme la langue des gens qui disent la guerre, donc la langue des guerriers, la langue des gens qui boivent de la bière, etc. Et ce terme langue ne s'applique pas seulement à au chant, mais c'est koé, ça signifie aussi bien la langue au sens du souroui du portugais, mais aussi de la langue des cris des espèces animales, ou de la langue des esprits, qui est une langue ésotérique du chamanisme, toutes ces langues ayant à chaque fois désignant un ensemble de signifiés possibles, bon, en soi-même ces langues sont des signifiants, sont un ensemble de signifiants, auxquels correspondent des ensembles de signifiés plus ou moins spécialisés. Les animaux ne peuvent pas dire la même chose que peuvent dire les humains. Les chants de boissons ne peuvent pas dire ce que disent les chants de guerre, voilà, etc. Et donc, les langues correspondent à un ensemble de modes de communication, qui correspondent à des modes d'être, qui correspondent aussi à des espèces. De telle sorte que les chanteurs de chants de boisson, les chanteurs de chants de guerre deviennent en quelque sorte de nouvelles espèces qui s'ajoutent à la série des espèces humaines, animales, spirituelles, etc. Et qu'au sein de chacun de ces espèces se développent des sous-espèces qui sont les styles propres à certains grands chanteurs, qui développent des réseaux de métaphores qui leur sont propres et qui permettent d'identifier un chant comme, même si on ne sait pas qui l'a chanté, on l'écoute et on dit « Ah oui, non, mais ça, c'est le chant d'un tel » et on sait inférer du chant qui doit l'avoir composé, même si on n'avait jamais entendu ce chant, parce que c'est un style propre à un chanteur bien connu. De telle sorte que être célèbre, c'est être connu par un chant, donc je vais expliquer. Et finalement, être célèbre, c'est être un individu qui est certes séparé d'un groupe auquel il appartenait, le groupe de CKD, etc., qui a été individualisé. Mais en étant individualisé, c'est être en quelque sorte redevenu une espèce à soi tout seul, produire une nouvelle espèce dans la série des espèces qui sont une ontologie animiste classique, une série de modes d'être et de capacités propres. Donc être célèbre, c'est être devenu, presque, si je pouvais me permettre l'expression, être devenu une espèce à soi tout seul, ou avoir créé une nouvelle espèce. Et c'est pour ça que l'individualisation par le nom peut être ressentie comme vexante, douloureuse, parce qu'elle ne classe pas la personne à partir d'elle-même en la faisant devenir un collectif par elle-même, en la faisant devenir une espèce, mais elle la réduit juste à un individu dans une masse indéterminée. Et c'est pour ça qu'au contraire, classer quelqu'un comme étant un blanc, ce n'est pas forcément en soi, le classer dans une espèce n'est pas forcément vexant plus que ça ne l'aurait été de le désigner par son nom. Voilà, bon, j'espère que ça enrichit la diversité des formes d'individualité que l'on peut rencontrer en Amazonie.